Une lesbienne victime de violence peut plus facilement s'en aller qu'une femme dans une relation violente hétérosexuelle.
Eh ben non, encore une fois, ce mythe, il est pas vrai en fait, parce que... Bon bah déjà, c'est important de dire que c'est toujours difficile, ça c'est sûr, de quitter une relation de violence conjugale. Et pour les lesbiennes, il peut exister tous les mêmes éléments qui font que c'est difficile de partir de ces relations. Donc un sentiment de dévalorisation, l'isolement qui a été créé, la honte, des difficultés matérielles. Et certains de ces éléments vont même être exacerbés parce qu'elle est lesbienne. Ou il peut aussi s'en rajouter d'autres. Un des gros problèmes, en fait, c'est déjà pour partir, c'est d'être capable de se reconnaître comme victime et d'être reconnu par son entourage comme victime pour avoir un soutien qui peut aider à partir. Et peut-être la première chose qui fait que c'est vraiment difficile de se reconnaître soi-même comme victime, c'est comme les violences conjugales chez les lesbiennes dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, y compris lesbiennes, ça n'existe pas et qu'il y a un silence là-dessus. Ben, y a des femmes qui disent que en fait, c'était juste pas imaginable, ça faisait pas partie de leur réalité, de leur imaginaire, et que si elles ont vécu ces situations-là, elles ont mis du temps à partir, parce que juste elles ont mis du temps à analyser ce qui se passait, quoi. Et également, un autre élément important qui fait que c'est difficile de partir et de se reconnaître comme victime, c'est quelque chose qui a été développé tout à l'heure dans la partie précédente, c'est cette idée de culpabilisation. Parce que comme le blâme est toujours mis sur la personne qui est victime et que la femme violente lui dit « c'est ta faute, tu m'as poussé à bout, dadada », bon, ce qui existe aussi dans les violences conjugales hétérosexuelles, hein, mais qui est vraiment fort chez les lesbiennes parce qu'il y a ce truc d'empathie hyper fort, de culpabilisation hyper fort. Et du coup, on peut croire dans ces situations que comme ça vient de nous, on peut changer le problème, qu'on a ce pouvoir-là en fait. Et du coup, on va rester pour espérer tout pouvoir changer, que ça aille mieux. Et en fait, ça ne va jamais mieux. Et tout ça, ça peut être renforcé aussi, la difficulté de partir, par le chantage affectif qui peut se mettre en place en face, où la personne violente peut se menacer de se faire du mal à elle-même, donc de se suicider ou autre. Et du coup, ce qui peut créer une difficulté de partir et peur d'abandonner sa partenaire dans une situation vraiment de détresse qui peut aller loin, quoi. Après, on va écouter un autre mythe.
La violence est mutuelle ou réciproque parce qu'on est égal.
Alors ça, c'est aussi une perception assez fausse qu'on peut avoir quand on regarde un peu des situations de violence conjugale et qu'on retrouve aussi dans des relations hétérosexuelles. C'est l'idée de, que les violences, elles peuvent être mutuelles, en fait. Que c'est une façon simple de l'expliquer. Et que ça va souvent être donné, cette analyse, pour des relations de violence conjugale chez les lesbiennes. Parce qu'il y a un peu l'idée, en fait, chez les hommes, c'est un peu... les hommes, en fait, s'ils tapent leurs femmes, des fois, c'est parce qu'ils sont plus forts physiquement. Du coup, c'est normal que ça se fasse comme ça. Et entre lesbiennes, et ben, de toute façon, elles sont de force égale, potentiellement, parce que c'est toutes les deux des femmes et... Et du coup, c'est forcément des violences mutuelles. Et du coup, on a vu tout à l'heure avec l'analyse des mécanismes que ça se passe pas comme ça et que c'est pas si simple que ça. Et à trop vouloir calquer des fois des modèles hétéros sur des couples lesbiens, et ben ça peut aussi donner tout un tas de visions assez fausses de ce qui est en train de se passer.
Les lesbiennes qui sont violentes ressemblent à des hommes, sont des butches.
Donc ça peut être une idée qu'on retrouve assez largement dans la société. Et en fait, toutes les études montrent que c'est pas du tout le cas. En fait, on peut être victime de violence ou violente, qu'on soit masculine, butch ou très féminine ou rien à voir, en fait. C'est vraiment... Si on calque ces réalités-là, parce que ça fait ressembler à un modèle hétérosexuel où, du coup, l'homme est violent, donc la personne masculine est violente, ça marche pas. C'est juste pas la réalité.
Si l'on peut se défendre, alors ce n'est pas de la violence conjugale.
Alors ça, c'est aussi un mythe qui existe également dans les relations hétérosexuelles, qui fait que quand on a recours à de l'autodéfense ou de la contre-attaque pour se défendre, on va être perçu comme une personne violente au même titre que l'autre personne. Du coup, là, on revient sur cette idée de violence mutuelle. Et c'est vrai que ça peut sembler pas évident de faire la différence entre qu'est-ce qu'un coup qui vient d'un processus de violence conjugale, un coup ou tout autre type de violence, et qu'est-ce qui est plutôt de la défense. Et pour aider un peu à comprendre ça, on peut regarder à c'est quoi les buts derrière ces épisodes violents. Dans les violences conjugales, on l'a vu, l'idée c'est vraiment d'établir un contrôle et de prendre du pouvoir sur l'autre. Alors que quand on se défend, l'idée c'est plutôt de se protéger. Parfois ça peut aussi être de se venger. Mais l'idée, c'est toujours de pouvoir reprendre du pouvoir sur soi-même et pour soi-même. Et ça, du coup, c'est une difficulté aussi que rencontrent particulièrement les lesbiennes quand elles veulent être connues ou si elles veulent pouvoir se voir elles-mêmes comme des personnes qui sont victimes. C'est que, en fait, apparemment, selon les études, les lesbiennes, elles répondent plus aux coups. Ça, y a plusieurs explications pour ça. Dans le milieu lesbienne, féministe, militant, c'est vrai qu'il y a une forte valorisation de l'autodéfense, de ne pas se laisser faire, d'être capable de se battre, et une envie aussi de sortir de constructions genrées, où la femme est censée être passive et tout ça. Et du coup, une envie de se révolter un peu contre ça. Et aussi, dans les relations lesbiennes, on est un peu débarrassé du poids du rapport inégalitaire entre hommes et femmes. Mais du coup, voilà, ça fait encore... des raisons en plus qui font que ça peut être difficile de se reconnaître comme victime. Et on va écouter un petit montage qui montre justement comment ça peut être compliqué, mais aussi quels éléments peuvent permettre de se reconnaître dans des situations de violence.
Ça m'a pris longtemps pour être capable de reconnaître que j'étais victime de violences physiques et émotionnelles dans cette relation.
Comment peut-on être une victime ? Quand on fait un œil au beurre noir à quelqu'une.
Comment peut-on être une victime quand on est physiquement plus forte que l'autre personne ?
Je pense que l'on est une victime si on est celle qui essaie toujours d'éviter les disputes.
Je pense qu'on est une victime si on préfère se taire pour atténuer ou arrêter la violence de l'autre.
Je pense qu'on est une victime quand on fait des choses qui nous font peur, juste pour échapper à l'autre personne.
Je pense qu'on est une victime si on est toujours sur des œufs pour éviter à l'autre toute frustration ou désaccord.
Je pense que l'on est une victime quand on commence à se sentir devenir folle parce qu'on a clairement compris que la personne disait une chose et qu'elle déclare de façon insistante et indignée avoir dit autre chose et que c'est nous qui avions mal compris, même si son histoire peut changer plusieurs fois en 15 minutes et que chaque version est incompatible avec la précédente.
Je pense que l'on est une victime quand on commence à douter de sa propre valeur.
Je pense qu'on est une victime quand on commence à avoir des attitudes autodestructrices en réponse à la colère et à la violence de l'autre personne.
Je pense que l'on est une victime quand on commence à dire que l'on est d'accord avec quelqu'une et que sa vérité est la vérité, même si on sait objectivement que c'est faux.
Je pense qu'on est une victime si on s'excuse d'avoir fait quelque chose de mal, alors qu'on croit sincèrement ne rien avoir fait de mal, mais qu'on s'excuse juste pour pacifier une situation ou arrêter une dispute.
Je pense qu'on est une victime quand on s'oublie soi-même, ainsi que ses rêves, ses activités, ses plaisirs, pour faire plaisir à l'autre.
Voilà, et ça c'était... un extrait d'un texte qu'on peut trouver dans un livre qui s'appelle « Naming the Violence, Speaking Out About Lesbian Battering », qui réunit plusieurs témoignages de femmes victimes de violences conjugales et qui parle aussi d'actions prises par des féministes, des lesbiennes pour pouvoir gérer ce problème convenablement, quoi. On reparlera de ce livre un peu plus tard, on vous le présentera de façon plus complète. Bon, du coup, on voit qu'en effet, c'est compliqué de se reconnaître comme victime. Et en plus, se rajoute à ça, si on arrive à le faire, à se dire vraiment, là, je suis dans une situation où j'ai besoin d'en sortir, j'ai besoin de trouver de l'aide, et ben l'aide, elle n'est pas forcément si facile à trouver.
L'aide, elle n'est pas facile à trouver, notamment parce que c'est difficile de partir. Alors, dans toute relation, c'est difficile, enfin, dans toute relation de violence conjugale, c'est difficile de partir, mais ici, il y a des problématiques spécifiques au fait d'être dans des relations lesbiennes. Alors, La première chose, c'est que si la personne, elle est déjà outée, donc déjà connue, reconnue comme lesbienne, alors elle va devoir aller chercher de l'aide dans le milieu lesbien, bien souvent, parce que du coup, ce sera son entourage le plus proche. Le milieu LGBT. Le milieu LGBT, c'est un petit milieu. Et du coup, il est assez difficile de mettre en place des choses par rapport à ce type de violence, parce qu'on se retrouve vite exclu. Alors exclu parce que si on veut plus voir une personne, ben bien souvent comme le milieu est petit, ben on doit s'extraire de la communauté. Cette personne qui est la personne qui nous agresse souhaite aussi continuer à nous dominer et à imposer sa place. Elle peut aussi décider d'imposer sa place dans le milieu et contraindre sa victime à devoir en partir de ce milieu. Ensuite, il y a aussi la question de comment les personnes du milieu LGBT peuvent recevoir l'annonce de cette réalité de violence. Alors, il peut y avoir des réticences à croire la victime parce que il y a quelque chose qu'on appelle l'utopie lesbienne. Alors, l'utopie lesbienne, c'est quelque chose qui fait comme une sorte de bulle de protection contre l'homophobie, en quelque sorte. Et du coup, en fait, de peur de briser cette bulle, une espèce de bulle de protection, du coup, qui a été créée au fur et à mesure du temps pour se faire un peu un cocon un peu plus confortable dans ce monde hétéro, de peur de briser cette bulle, il peut y avoir un déni de la violence conjugale lesbienne. Et du coup, cette violence, comme elle n'est pas vraiment prise en compte, elle devient complètement, carrément un tabou. Et du coup, quand une personne vient en parler en disant voilà ce qui m'arrive, voilà où j'en suis, etc. On peut aussi décider de pas la croire parce qu'en fait, c'est pas confortable de remettre en cause cette bulle. Alors, dans l'autre situation, si la personne victime de violence n'est pas outée, bien souvent, elle se retrouve à devoir se heurter à une sorte de double outing, c'est-à-dire dire une première fois, commencer par faire entendre que elle est lesbienne, et la deuxième chose, c'est que dans le même temps elle est non seulement elle est lesbienne, mais en plus elle est en train de vivre des violences conjugales lesbiennes. Alors ce double outing, bien souvent il a lieu face à la famille ou les amis, du coup bien souvent en hors de la communauté lesbienne, et donc face à des personnes majoritairement hétéros. Et du coup, c'est d'autant plus dur parce que c'est comme un aveu d'échec qui donne raison à ce stigmate qui dit que les relations LGBT, ce sont des relations contre nature, pas viables et malsaines, en quelques mots, avec tout ce qu'on peut mettre derrière. Du coup, le déni des violences conjugales lesbiennes dans la communauté LGBT, ajouté à l'homophobie des proches, ce qui est encore compliqué, parce qu'on va en rajouter encore une couche, il peut être encore renforcé par l'homophobie des institutions.
Alors, une lesbienne qui essaie de sortir d'une relation violente, elle va pas forcément faire appel à la police, parce que c'est bien connu. L'institution policière n'est pas spécialement connue pour être homo-friendly. Et il y a une forte histoire de harcèlement, de violence et de brutalité policière contre la communauté LGBT. Alors, même si un travail est fait par des associations auprès de policiers, il y a une grande méconnaissance de ce sujet de leur part. En plus de la potentielle lesbophobie de chaque individu exerçant cette profession. Alors, dans ce cas-là, la victime, elle se dit « Bon, je vais pas aller voir la police, mais je vais aller me tourner vers des lieux d'accueil, des lieux d'écoute ou des foyers pour femmes victimes de violences. » Mais là encore, elle peut se heurter à la lesbophobie ou le jugement potentiel des personnes qui y travaillent. Alors, pour vérifier ça, on a été interviewé des associations comme Milena ou Solidarité Femmes. Alors, les personnes qui nous ont accueillis étaient fort sympathiques, pleines de bonne volonté, très ouvertes et absolument pas homophobes. Ça c'est sûr. Mais par contre, elles avaient aucune formation spécifique aux violences conjugales lesbiennes. Elles partageaient parfois certains mythes que nous tentons de démonter ici. Et puis quoi d'autre? À Solidarité Femmes, les personnes étaient d'accord pour faire des formations. Par contre, pour apprendre plus et être au fait de cette spécificité-là. Voilà. Alors, on
et
a vu que...
Peut-être on peut rajouter ce truc que, même s'il n'y a pas forcément de l'homophobie en allant voir ces structures-là, il y a déjà l'idée de ne pas forcément aller les voir. Parce qu'en effet, il n'y a aucun effort de communication quoi, vers ces communautés-là.
Ouais, on a vu qu'il n'y avait aucune communication spécifique, ni aucun travail d'ouverture sur les communautés LGBT qui étaient faites dans ces associations-là. Donc les peurs de s'adresser aux institutions des lesbiennes victimes de violences, elles nous semblent bien fondées. On va écouter poursuivre une deuxième partie de l'extrait d'une vidéo dont on a entendu la première partie tout à l'heure et qui a été faite par le Centre de solidarité lesbienne du Québec.
Lila, t'es arrivée hier à la maison d'hébergement. Puis j'ai vu dans nos notes que la police était intervenue.
Le policier a pas pensé qu'on pouvait être un couple. Je pensais que c'était une chicane entre deux colocs.
Lila, t'es en sécurité ici. T'as pas à t'inquiéter. Raconte-moi ce qui s'est passé.
Je l'aime, mais c'est difficile. C'est toujours la même chose. Quand on sort, je peux regarder personne, puis quand on revient à la maison, je me fais engueuler. Puis après, c'est les coups qui revolent. Une fois, je me suis fait lancer une chaise par la tête.
Est-ce que t'as peur de lui?
C'est une femme. Est-ce que je lui dis? D'un coup, qu'elle me met dehors, si je lui dis. Si elle savait comment j'ai peur.
Est-ce que... il y a un endroit dans ta vie où t'as l'impression d'être plus en sécurité? Comme ton travail?
Là non plus, c'est pas facile. Je reçois tout le temps des téléphones de sa part. Juste pour me surveiller, hein. Juste pour voir si je suis là. J'ai l'impression que si ça continue, je vais perdre mon emploi.
Tu pourrais peut-être en parler à ton patron? Il pourrait bloquer ses appels?
Ben oui, c'est ça. J'ai dit quoi en premier? Que je suis victime de violences conjugales ou que je suis lesbienne?
Lila, on a un groupe demain. Je pense qu'on t'en a déjà parlé.
Ouais.
À propos,
je voulais savoir si on est obligé de compter notre vie dans ces groupes-là.
Non, t'es pas obligé, mais c'est sûr que de partager avec d'autres qui ont un vécu similaire au tien, ça peut t'aider.
Pas tout à fait, non. J'aime les femmes. Puis si je me fie à la dernière fois où j'ai parlé de ma blonde dans un groupe, je me suis sentie jugée par tout le monde.
Ouais, on verra.
Es-tu vraiment certaine que personne ne peut me retrouver ici?
Pas t'inquiéter. Si un homme appelle, on lui dira juste qu'on ne te connaît pas.
Elle va me retrouver, c'est sûr. C'est facile. Elle a dit qu'elle allait se faire passer pour ma sœur puis que personne ne porterait attention à elle. J'ai peur.
Comment vous dire que c'est une femme qui me bat? Tout ce qu'on entend, c'est que c'est les hommes les agresseurs. Comment expliquer alors que le coup de poing que Brigitte m'a donné fasse aussi mal que celui que les autres femmes reçoivent de leur chum? Comment vous expliquer que je me sens aussi sale qu'une autre femme quand Brigitte m'agresse sexuellement? Comment vous dire que je suis lesbienne? Que j'haïs pas les hommes, mais que je préfère les femmes? Comment vous expliquer que je préfère rester dans une relation de violence plutôt que de dévoiler mon orientation sexuelle?
qu'est-ce que je fais si je quitte Brigitte? Il n'y a pas beaucoup de lieux de rencontre, la communauté est tellement petite. Puis l'intervenante, elle n'a même pas pris le temps de me demander si c'était un ou une conjointe. Si au moins j'avais vu un drapeau arc-en-ciel, peut-être que je l'aurais dit que je suis gay. J'ai même entendu des commentaires lesbophobes, puis l'intervenante a laissé passer ça. Au moins, les commentaires racistes ont été recadrés. Ouais. Pour le moment, j'ai aussi peur de la laisser que de rester avec elle. Pour le moment, j'aime mieux subir la violence de ma blonde plutôt que d'avouer à tout le monde que je suis lesbienne.
Alors, comme on l'a entendu ici, c'est compliqué de s'adresser dans les structures d'accueil. Mais c'est aussi compliqué de s'adresser dans les foyers d'accueil parce que dans certaines villes, c'est le mouvement féministe lesbien qui prend en charge la violence dans les relations hétérosexuelles. Donc les personnes appartenant à la communauté et parfois même la personne violente connaissent ces lieux maintenus secrets et pourquoi pas y travaillent. Alors, comme on vient de l'entendre, c'est plus facile d'entrer dans un foyer d'accueil pour une femme que pour un homme. Alors, c'est compliqué de s'y sentir en sécurité et à l'abri. Il nous semble important aussi d'ajouter que dans la communauté lesbienne, on connaît tout le monde, quoi. C'est une communauté petite et que vouloir s'en extraire, c'est compliqué. Les lesbiennes, elles rompent souvent les liens avec leur famille à cause de la non-acceptation de leur sexualité. Et les victimes de violences, elles n'ont pas de lieu ressources et de soutien en cas de fuite ou en cas de... Ouais, voilà, c'est ça. Si on veut essayer de se cacher de sa partenaire violente, on a très peu de lieux ressources. La population LGBT... Elle fait partie des populations les plus précarisées de notre société à cause des difficultés qu'on connaît bien à obtenir logement et travail quand on est outé. Et on peut aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a pas vraiment de cadre législatif concernant la séparation des biens pour les couples LGBT. Et donc, c'est compliqué de trouver un endroit où vivre si on quitte une personne qui appartient à la communauté. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis à ce propos qui montre que bien souvent, les personnes qui quittent des relations violentes LGBT se retrouvent SDF.
Oui, alors on pourrait croire, par exemple, que en France, le PACS, il a pu modifier ces questions de droits concernant, par exemple, le logement ou le droit concernant les biens. Et en fait, non, parce que quand deux personnes se PACSent, la majeure partie des personnes se PACSent sous le régime de la séparation des biens. Et en indivision. Alors, le régime de la séparation des biens, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque personne, elle reste propriétaire des biens qu'elle avait au départ, plus ceux qu'elle a acquis pendant la relation. Et l'indivision, c'est que si on achète un bien en commun et qu'on se sépare ensuite, la part qui va nous revenir, elle est proportionnelle à la somme qu'on a mise à l'intérieur de ce bien. Et donc, du coup, ça veut dire que si une personne est avec une autre personne et qu'il se trouve, par exemple, que cette personne qui subit des violences de la part de son ami, et la personne qui n'a pas d'argent, par exemple, deux personnes décident d'habiter ensemble. Il se trouve que les deux habitent chez A, qui a un appartement. B n'a pas trop d'argent. Alors tout le monde habite chez A. Il se trouve que en plus ces deux personnes ont un enfant. B décide de rester à la maison, de pas travailler. Donc du coup, elle a aussi pas de revenus. Et en fait, ça fait que si jamais il y a des violences entre ces deux personnes, que c'est A qui est l'agresseuse, B la victime. Si B veut partir, en fait, elle pourra partir, mais le PACS ne va pas l'aider à avoir des ressources en fait, parce que l'appartement il appartient à A. C'est A qui a financé la survie de la famille pendant X années. Et du coup, quand B part, elle a aucun droit, ni sur l'appartement, ni elle a pas de sous en poche, parce que juste, elle a pas travaillé pendant ces années-là.
Et si elle n'est pas la mère biologique des enfants qu'elles ont élevés ensemble, elle n'a aucun droit sur ses enfants. Et si elle décide de quitter le foyer, elle pourra se dire que l'autre personne pourra l'empêcher de voir ses enfants.
Alors, on va écouter une petite musique pour voilà, se rafraîchir un peu les idées. Alors, c'est une musique de Annie DiFranco qui s'appelle Out of Range. C'est une chanteuse-compositrice américaine qui était un peu l'idole des lesbiennes, mais qui est un peu tombée de sa scène d'idole parce que, ben voilà, elle a eu un enfant et elle s'est mariée avec le père de son enfant. Alors, elle est un peu redescendue dans les sondages d'idolâtrie de lesbiennes.
Just the thought of our bed makes me crumble like the plaster way you punch the wall beside my head. And I try to draw the line, but it ends up running down the middle of me most of the time. And boys get locked up in some prison, girls get locked up in some house, and it don't matter if it's a warden or a lover or a spouse. You just can't talk to them, you just can't reason, you just can't leave, and you just can't please them. I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see the mistakes of each generation will just fade like a radio station. You try, you just gotta try. Out of range. And if you're not angry, then you're just stupid, you don't care. How else can you react when you know something's so unfair? When the man of the hour can kill half the world in war, make them slaves to a superpower and let them die poor. I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see the mistakes of it. Each generation will just fade like a radio station. If you try it, you just gotta try it. You just gotta try it. Beside my head, and I try to draw the line, but it ends up running down the middle of me most of the time. And baby, I love you, that's why I'm leaving. There's just no talking you, and there's just no pleasing you. And I care enough that I'm mad that half the world don't even know what they could have had. Yeah, I was locked into being my mother's daughter. I was just eating bread and water, thinking nothing ever changes. And I was shocked, see the mistakes of each generation will just fade like a radio station. If you drive, you just gotta drive. You just gotta drive, 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 drive out of range.
Toujours bien sur Dégenrée, sur la radio Kaléidoscope 97FM, toujours sur le thème des violences conjugales chez les lesbiennes.
Voilà, alors on va voir maintenant en quoi le sujet des violences conjugales lesbiennes est un tabou, parce que vous l'aurez compris, c'est un tabou aujourd'hui encore. Voilà, alors je vous propose un petit historique de différents travaux qui ont été faits autour des violences conjugales lesbiennes. Alors, ça commence en 1983 aux États-Unis, où donc c'est la première fois que la question de la violence dans les relations lesbiennes a été discutée et approfondie pendant des rencontres qui ont été organisées par un collectif qui s'appelait la Coalition nationale contre la violence conjugale dans les relations lesbiennes. Donc pendant ces rencontres, il a été reconnu que la violence dans les relations lesbiennes était un problème social. Bien sûr, il n'y avait pas consensus et il y avait encore beaucoup de réticences et de désaccords. Mais bon, quand même, il a été reconnu ça. Ensuite, pour visibiliser, continuer à visibiliser ces questions, la coalition a fait appel à Kerry Lobel, qui est une militante féministe lesbienne. Elles ont fait appel à elle pour utiliser son réseau et qu'elle aille récolter des textes de femmes qui ont subi des violences conjugales et des témoignages de militantes qui ont mis en place des choses à ce sujet. Et c'est comme ça que en 1986 sort le livre Naming the Violence, dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission. Ensuite, il y a quelques petites études qui sortent, des petites études des plus féministes aux plus craignos. Et aujourd'hui, aux États-Unis, la réflexion, bah, elle a avancé. On peut même voir à certains moments des affiches de campagnes de sensibilisation dans les stations de métro qui disent, par exemple, un couple gay et lesbien sur quatre fera l'expérience de la violence domestique. Voilà pour les États-Unis. Pour le Québec, il faut attendre 95 pour aborder cette problématique. 95 avec la création du groupe d'intervention en violence conjugale chez les lesbiennes, le GIVCL, qui aujourd'hui est devenu le CSL, le Centre de solidarité lesbienne, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Avec aussi la politique d'intervention en matière de violence conjugale du gouvernement québécois, qui prend en compte pour la première fois la réalité de la violence dans les relations lesbiennes et gays au niveau officiel. Et en France, c'est en 2005, que se crée la première association sur ce sujet. Donc première association qui s'appelle Air Libre dans le Tarn, dont la personne qui l'a créé a fait ses armes au Québec. Dans le livre Naming the Violence, Barbara Hart, elle termine sa préface en disant « J'ai confiance dans le fait que si la Coalition nationale contre les violences conjugales écrit une autre anthologie dans les 10 ans, il y apparaîtra beaucoup des réponses qui nous manquent aujourd'hui. » Alors du coup, on peut se demander, ben, qu'en est-il 25 ans après ? Eh ben, on peut remarquer que la question est un peu plus prise en compte qu'avant au niveau des institutions anglophones et québécoises francophones, mais que par contre, au niveau militant et féministe, il y a un manque de prise en compte de ce sujet, que les assos LGBT ne se sont pas emparés de cette problématique. Et on voit aujourd'hui très peu d'assos qui bossent sur cette question. En plus, l'état des études et publications n'a pas trop avancé, surtout en France, où, bien sûr, disons-le nous, on attend toujours les années 80. Alors d'ailleurs, on a été rencontrer des assos lesbiennes qui confirment ce dire-là, les violences conjugales lesbiennes sont tabous. Alors on écoute un premier montage d'une interview des voix d'elles. Savoir si la question des violences conjugales lesbiennes est discutée dans l'asso.
Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a abordé. Personne n'est jamais venu nous rencontrer pour ça. Entre nous, bon, entre les femmes de l'association, celles qui se voient régulièrement, etc., le sujet n'a jamais été abordé. Il y a d'autres formes de violences qui ont pu être abordées ou dont on a pu être témoin, par exemple lors de soirées, des femmes un peu sous l'emprise de l'alcool qui pouvaient commencer à se battre pour des conneries, quoi. Je pense que cette question a été un peu abordée à la coordination lesbienne à une époque, mais je me souviens plus tellement en quels termes. Et puis je crois que c'est vraiment un tabou, quoi. Souvent, les lesbiennes, dans les associations militantes, en tout cas, on a envie de disons, de se démarquer un petit peu peut-être de la société environnante, montrer qu'on a d'autres modes de vie, d'autres façons d'envisager les rapports aux autres, donc au couple, peut-être aux enfants pour celles qui ont des enfants, etc. Et voilà, peut-être qu'on veut pas qu'il soit dit que ces choses nous arrivent aussi, quoi.
Savoir si l'asso dispose d'outils pour répondre à cette problématique.
Ben, pas forcément, puisqu'on n'en a jamais discuté. Donc, c'est vrai qu'on se prépare mieux à des accueils quand on discute, que nos expériences individuelles de la vie ne suffisent pas forcément à répondre à des problèmes un peu graves, quoi. Voilà, donc non, je pense pas qu'on soit forcément bien préparé à ça. La chose qu'on ferait sans doute, c'est écouter, parce qu'une bonne part de l'accueil, c'est de l'écoute. Après, donner des conseils, quels conseils, enfin, je ne sais pas, ça dépend ce que la personne attend aussi, je ne sais pas.
Voilà, alors c'était une interview de Sylvie Desvoidel, qui est Les Voidel, c'est une association militante de lesbiennes à Grenoble qui existe depuis bientôt 20 ans et qu'on peut aller rencontrer pendant leur permanence un lundi sur deux de 19h30 à 21h30 ou les contacter au 04 76 85 20 64 ou 06 85 36 72 52.
Ensuite, on va écouter une deuxième interview. Alors, on va écouter l'interview de Ernesto, qui est une femme militante, féministe, lesbienne depuis les années 70, qui habite en Allemagne. Et on a voulu la rencontrer parce qu'elle, déjà d'une part, elle travaille dans une maison d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales, qui est une maison qui est autonome et autogérée, comme il existe plus d'une centaine en Allemagne, de ces maisons-là. Et aussi, elle est très active au centre femmes lesbiennes de Kassel, la ville où elle habite. Ce centre, il a été monté par un collectif féministe il y a 30 ans et il s'y passe différentes activités. Et c'est aussi là qu'il y avait la hotline pour les lesbiennes en difficulté et aussi le SOS viol. Et du coup, nous, on lui a demandé si les violences conjugales lesbiennes étaient plus visibles en Allemagne parce qu'il y avait plus de structures militantes et en particulier si c'était un sujet discuté au centre femmes lesbiennes.
En Allemagne aussi, on a une association qui s'est créée, qui s'appelle Arc-en-Ciel Rompu. Et je crois que c'est un signe que c'est pas facile. Tu bien qu'on a beaucoup plus de projets autogérés. Je crois peut-être c'est aussi beaucoup plus difficile à en parler parce qu'on suppose, on assume en général qu'il n'y a pas de violence entre lesbiennes. Et aussi, on assume beaucoup plus que ça soit... Comment dire? Oui, je crois parce qu'on a déjà du mal à vivre ce qu'on veut vivre, tu vois. C'est pas si facile, bien que tout le monde l'ait dit, à vivre une vie lesbienne. Parce que c'est déjà aussi bien défini, bien réglé. Quand tu veux vivre autre chose, tu vois, tu es hors chaque norme et chaque ce que tu veux faire. Et tu es toujours en train de te revoir avec ça, cela que tu veux faire. Et comme ça, je l'ai vécu ici toujours difficile à le nommer. À être compris, à être supporté. Et je crois ici, c'est beaucoup, beaucoup à vivre sur ce point-là et aussi à prendre des pas, tu vois, pour vraiment encourager chaque femme lesbienne à pouvoir nommer ce qu'elle vit. C'est toujours vachement difficile à dire « j'ai subi de la violence ». Tu vois, parce que tout le monde assume que tu es une lesbienne forte, que tu sais bien te défendre, que tu es indépendante, que tu vis ce que tu veux vivre, que tu aimes ce que tu veux aimer. Et à sortir à ce moment-là, non, il y a d'autres choses. C'est tout difficile. Nous avons bien souvent dû réaliser que les choses qu'on a pensées, ce sont des blagues entre deux qu'on connaisse, n'ont pas du tout été des blagues, mais étaient déjà part d'une dynamique de violence, tu vois, qui... Peut-être si on avait plus de sensibilité, plus le courage de s'interroger là-dessus, on aurait peut-être demandé à l'autre, mais ça, comment ça va, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que t'en penses, ou à l'autre, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais, ça me fait du mal entendre ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est chouette quand il y a une interview et tu réalises en ce moment-là, ah ah, on n'a pas fait, parce que tu penses toujours, tu fais, et puis tout à coup tu penses et tu dis, ah non, on n'a pas fait, alors ça veut dire quelque chose. Parce que tu penses, tu as déjà discuté, et je sais qu'à la maison de femmes, c'est différent, parce que là, les femmes, elles viennent, et là, on a toujours un discours sur les façons de vivre, sur les violences, et aussi sur tout ce qui est homophobie. Mais là, c'est le lieu public féministe, là, je sens, et pour ça... C'est bien qu'on parle ça, pour se rendre compte. Je sais que les dernières années, c'était pas discuté ici. Non, c'était pas dans le public. Non, ça existe parce que le téléphone lesbienne s'en est occupé. Tu vois, alors il y avait des problèmes, il y avait des discussions, mais c'était plus des discussions à l'intérieur du téléphone ou à l'intérieur d'un groupe. Et ça montre comme c'est difficile et qu'il faut faire beaucoup. Et parce que de plus on ferme, de plus on peut être aussi, tu vois, ça peut être aussi récupéré. Tu vois, c'est pas qu'on ferme, on se protège bien, c'est plutôt qu'on laisse beaucoup d'espace aussi à les interprétations, à utiliser. Tu vois, alors ça, je pense, pour nous, il faut beaucoup plus aller en avant et à ouvrir, à créer des espaces aussi publics, duquel on peut aussi se faire encore des points de rencontre qui sont sentis beaucoup plus sûrs des unes et des autres. C'est aussi nécessaire.
Des raisons qui font que c'est difficile d'en parler dans la communauté lesbienne de ces violences, c'est ce qu'on a vu, c'est que ça casse un peu cette idée de l'utopie lesbienne féministe et des rapports égalitaires. Et même si cette utopie, elle est très inspirante pour beaucoup de femmes lesbiennes, elle a créé beaucoup d'espaces forts, elle crée toujours des espaces forts émancipateurs, et ben en fait, on peut pas complètement se couper du monde dans lequel on a grandi. Et on a été formé dans le même moule que tout le monde. Et les rapports de domination, le discours sur l'amour, il peut aussi avoir une influence sur nous. Et on va lire un petit extrait d'un texte qui s'appelle « Quand chavire l'île aux amantes » d'Irène Demzuc, qui est une féministe québécoise, qui explique un peu tout ce processus autour des violences conjugales et de l'utopie féministe.
La violence est aussi ce glaive ayant transpercé le cœur de notre communauté rêvée, chavirant notre conception des femmes et des relations d'amour entre femmes, bouleversant la croyance et le désir si profond d'être à l'abri de l'agression patriarcale. Maintenant que nous savons, il n'y a plus d'île mythique des amantes, plus de terre promise pour les exilés que nous sommes si souvent dans notre propre société. C'est pourquoi la violence entre lesbiennes fait si mal. Elle est non seulement une blessure de l'esprit et du corps, elle est aussi une blessure à l'imaginaire, une blessure à l'identité. Et lorsque les médias s'emparent de ce glaive pour le retourner contre nous, c'est toute la communauté lesbienne qui est atteinte.
Du coup, Irène Demzuc, elle parle des médias. Et c'est pas juste de la paranoïa, parce que En fait, ça s'est déjà vu que les médias utilisent cet argument des violences conjugales chez les lesbiennes dans des buts un peu d'avoir des discours lesbophobes et antiféministes. Et du coup, Vanessa de Derlib, qui nous a fait la formation, nous a raconté une anecdote où elle a participé à un colloque au Canada, en fait, sur les violences conjugales. Et elle a fait une intervention, mais qui était vraiment assez courte et pas du tout représentative du reste du colloque, sur les violences conjugales chez les lesbiennes. Et en fait, c'est surtout ça qui a été retenu par les médias. Et qui, bien sûr, en parlait de façon à un peu remettre en question tout le reste du discours sur les violences conjugales hétérosexuelles. Et en France, on n'est pas à l'abri de ça. En fait, il y a un manifeste qui circule sur Internet, qui est un manifeste pour la désexualisation des politiques des luttes contre les violences. Ça, c'est un cheval de bataille des masculinistes, qui peuvent aussi s'appeler hoministes. Alors, en gros, c'est des hommes qui se regroupent et qui veulent un peu casser toutes les avancées féministes qu'il y a eu ces dernières années. Et ils se cachent souvent derrière des revendications qui ne paraissent pas forcément très choquantes au départ. Le droit des pères, le fait qu'il existe des hommes battus, que les hommes sont sensibles aussi. Mais en fait, c'est vraiment des personnes dangereuses et antiféministes. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur les masculinistes, il y a une émission de Dégenré et aussi une émission de Marseille, de l'émission Le Complot des Cagoles, à ce sujet-là, qu'on peut retrouver sur le site Radio Rageuse, radiorageuse.net, qui réunit plein d'émissions féministes. Et du coup, ça, on en parle parce que vraiment, c'est important. Quand on fait des recherches sur Internet, on se rend compte que si on tape dans notre moteur de recherche « violence conjugale chez les lesbiennes », eh ben, on va assez vite tomber sur des sites masculinistes qui avancent ça comme argument pour tout de suite après arriver à la violence faite aux hommes. Et du coup, on va lire un petit extrait de ce qu'on peut trouver sur Internet, justement. Donc ça, c'est sur le blog d'un masculiniste qui est un psy et qui a créé SOS Hommes Battus. Et voilà ce qu'il dit. Et contre toute attente, c'est dans les couples lesbiens que la violence est la plus présente. Bon, ça déjà, on voit bien qu'ils annoncent comme ça des grands faits, mais on ne sait pas d'où ils tiennent leurs chiffres. Et en fait, on sait plutôt que c'est des chiffres qui sont faux. C'est pourtant dans les couples lesbiens qu'on en parle le moins. Par conviction féministe, les lesbiennes n'acceptent pas de se positionner de façon réaliste dans la violence envers les femmes, ce domaine étant par nature réservé aux hommes. Dans les couples lesbiens, souvent, le couple est thérapeutique et il peut se rejouer une scène, la relation père-mère, une identification à un agresseur, ce qui met à mal le besoin d'autonomie et d'indépendance de chacune des deux femmes. Mais quelle que soit l'orientation du couple, gay ou lesbien, on retrouve souvent des abus sexuels, inceste ou pédophilie, chez au moins un des deux partenaires et une faible estime de soi. On retrouve aussi des difficultés de prise de rôle. Par essence sociale, on estime que dans un couple, il doit y avoir un rôle masculin et un rôle féminin. Les couples homosexuels tentent de coller à cette norme de fonctionnement, mais à force de tenter de savoir et accepter qui des deux doit prendre le rôle de l'autre sexe, le couple est en souffrance. Le couple tiendra en se forgeant un autre fonctionnement que celui de la norme, en redéfinissant les limites des rôles internes. Ce qui ne manquera pas de se poser lors de la venue d'un enfant, qui est le papa, qui est la maman. Ajoutons comme facteur supplémentaire à la survenue des violences intra-couple-homo les surconsommations d'alcool chez les gays et de drogue chez les lesbiennes. Bon, on voit vraiment comme c'est problématique ce genre de texte parce qu'il y a un mélange de données qui sont un peu comme sorties d'un chapeau et de choses qui sont aussi vraies qu'on a retrouvées dans l'émission. Et du coup, aussi, ça transparaît clairement les visions super homophobe et lesbophobe, quoi. Cette idée que les couples lesbiens ou gays calquent leur modèle sur des modèles genrés, parce que bien sûr, on ne peut pas exister hors du modèle binaire genré. Et voilà, tout ce genre de discours. Du coup, ça semble vraiment super important de s'emparer de ce sujet-là pour pas le laisser aux masculinistes. Et en fait, c'est cette idée que si on a du mal à en parler parce que c'est douloureux et que ça peut remettre en question ou demander de beaucoup complexifier certaines de nos analyses, et ben en même temps, si on le fait pas, et ben c'est le discours de ce type-là qui domine. Et voilà, c'est vraiment problématique. Et se rajoute à ça le fait que si on n'en parle pas, et ben ça laisse beaucoup de personnes qui vivent ces situations complètement isolées et dans une grande difficulté à trouver du soutien.
Maintenant, je vais vous parler de l'intervention. On va écouter un mythe à propos de l'intervention.
Aider les membres du couple à rester ensemble, à rétablir la communication, est un objectif d'intervention.
Eh bien non, aider les membres du couple à rester ensemble n'est pas un objectif d'intervention dans le cas de violence conjugale. En effet, on n'intervient pas dans une relation violente comme pour gérer un conflit. On intervient pour aider la séparation, pour bien prendre la mesure du danger encouru par la victime. Lors d'une intervention, on met en place les mêmes choses que pour les femmes hétérosexuelles victimes de violences, c'est-à-dire s'assurer du bien-être matériel, émotionnel, psychologique de la personne, l'aider dans ses démarches administratives pour trouver un travail et un logement sécuritaire, etc. On peut aussi mettre en place des groupes de parole de personnes victimes de violences comme le fait Air Libre. Alors Air Libre, on parle de cette association depuis le début de l'émission. En fait, on parle d'Air Libre parce que c'est la seule structure qui existe en France qui travaille sur les violences conjugales entre lesbiennes. C'est une association qui a été créée en 2005 à Tarbes et qui aujourd'hui est sur Toulouse. Alors elle se définit comme une association de recherche et de lutte autour des violences à l'encontre des lesbiennes et entre lesbiennes. Elle définit son champ d'action autour des discriminations au travail, sur le rejet familial, l'isolement en milieu rural et sur les questions liées à la lesbophobie. Le tout avec une approche sociologique et féministe. En ce qui concerne les violences conjugales entre lesbiennes, Air Libre met en place des groupes de parole, des médiations. Elle produit des études et propose des actions de prévention. En dehors de son travail sur les violences conjugales entre lesbiennes, elle intervient en milieu scolaire sur la lesbophobie. Je vais vous lire un petit extrait de la brochure d'Air Libre. Notre association vise à combattre les effets hétérosexistes et lesbophobes de la société et à dénoncer le système hétérosocial les produisant. Donc voilà, notre émission, elle a été en partie basée sur la formation de Vanessa Vatromez, qui est, comme je le disais, sociologue, intervenante sociale, etc. Et elle a réalisé une étude au Québec pour animer des groupes de parole et d'intervention à propos des violences conjugales entre lesbiennes. Elle s'est formée au Québec, elle y a travaillé, notamment au Centre de solidarité lesbienne de Montréal. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site d'Air Libre, sur airlibre.org, et vous trouverez un numéro à appeler en cas de besoin. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a en France. Sinon, il existe un site internet qui s'appelle Safe LGBT, qui est une plateforme internet qui a été créée par des personnes de Paris suite à une histoire d'agression sexuelle. Donc on peut y laisser des témoignages sur des violences vécues. Donc voilà, les textes sont bienvenus. Tout à l'heure, on a entendu parler de Broken Rainbow, qui est une association qui existe visiblement en Angleterre pour aider les personnes victimes de violences conjugales dans les milieux lesbiens. On peut aussi parler de quoi
on
d'autre.
On trouve ça aussi en Allemagne. L'équivalent de Broken Rainbow existe aussi en Allemagne. Et je crois que malheureusement, c'est à peu près tout, hein.
Voilà, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Alors, l'émission touche à sa fin.
Du coup, pour vous laisser avec de plus amples lectures, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, alors on peut trouver pas mal de choses sur Internet en anglais. En français, pas tant que ça, mais on peut quand même vous donner une petite sélection. Du coup, il y a le site du CSL, le Centre de solidarité lesbienne, du coup, qui se trouve au Québec, dont on a pas mal parlé dans l'émission. Et là-dessus, on peut trouver un dossier qui s'appelle Dossier Revue 13, qui a été compilé en 95, où il y a pas mal des textes, dont notamment on a lu des extraits aujourd'hui. Et on y retrouve aussi les vidéos dont on a pu entendre des montages. Il y a aussi un texte qui s'appelle La violence dans les relations lesbiennes, informations et ressources. Et ce texte, il est vraiment très bien fait. Il donne de super outils d'analyse pour comprendre un peu ce qui se passe et aussi des conseils pour les personnes victimes de violences ou violentes également. Et des conseils sur l'accompagnement, qu'on soit professionnel ou juste dans l'entourage des personnes concernées. Du coup, il y a aussi le site Safe LGBT, dont on a parlé tout à l'heure, safe-lgbt.fr. Safe, ça veut dire soutenir, agir, fédérer, écouter. Et on peut également écouter une émission de On n'est pas des cadeaux, qui est une émission transpédéguine de Lyon, qui peut aussi s'entendre sur radiorageuse.net. Et dans cette émission, il y a une interview de Vanessa Vintremes qui parle de tout ce sujet-là. Et on peut également trouver sa thèse sur Internet, ou en tout cas des extraits. Et sa thèse, elle s'appelle, alors attention, « Élargissement du cadre d'analyse féministe de la violence domestique masculine à travers l'étude de la violence dans les relations lesbiennes ». Je reprends mon souffle. Et si il y a ces références-là que vous voudriez retrouver, que vous n'avez pas eu le temps de noter ou quoi, vous pouvez aussi nous écrire. Notre adresse email, c'est degenre@pimienta.org. Musique.
Dès que je t'ai vu au coin de la rue, je me suis dit, cette fille-là, elle est faite pour moi. T'avais l'air pas mal et je t'ai invité au bal pour danser le tango et tu jetais dans la peau. Je t'ai dans la peau et crois-moi, pour ma voix fallait se lever tôt. Oh minouche, ma minouche, ma minouche, ma minouche, je t'ai dans la peau et crois-moi, pour ma voix fallait se lever tôt. Dès les premiers pas, t'es collé à moi, y avait pas de problème. Alors je t'ai dit, je t'aime. On s'est payé un casse-croûte au snack bar de l'autoroute et on est rentré tôt car j'avais dans la peau. Oh minouche, ma minouche, ma minouche, je t'ai dans la peau et crois-moi, pour ma voix fallait se lever tôt. Oh minouche, ma minouche, ma minouche, ma minouche, je t'ai dans la peau et crois-moi, pour ma voix fallait se lever. À l'usine de conserve de sardines et moi j'étais pompiste dans une station service. On gagnait tout juste notre vie sans vacances ni sorties. On était peut-être fauchés mais nous on s'aimait. Je t'ai dans la peau et crois-moi, pour ma voix fallait se lever tôt. Oh minouche, ma minouche, ma minouche, ma minouche, je t'ai dans la peau et crois-moi, pour ma voix fallait se lever tôt. Tout est tombé. T'as perdu ton boulot, t'as pas pu supporter et tu t'es suicidé. Mais à ton enterrement, y'avait tes parents, ta sœur aussi était venue, elle est pas mal non plus. Oh la sœur de minouche, oh la sœur de minouche, je t'ai dans la peau et crois-moi, pour ma voix fallait se lever tôt. minouche, je t'ai dans la peau. Et crois-moi pour m'avoir, fallait se lever tôt.
Du coup, on vient d'écouter une chanson interprétée par Claude Michel, qui est une chanteuse féministe bretonne. Voilà.
Pour clôturer cette émission de Dégenré, nous allons faire un petit agenda féministe.
Que se passe-t-il dans les semaines à venir?
Alors, samedi 11 février à la BAF, il y a un concert de soutien à l'anti-rep. Un concert avec Sylvie Bro et ma sœur, Gaëtan, Konigstanius et Pleine Crasse. N'oublions pas l'émission Calibre tous les jeudis de 20h à 21h. Et la prochaine émission, celle du 9 février, elle sera sur les modifications corporelles. N'hésitez pas à appeler. Il est important aussi de rappeler la permanence de la bibliothèque féministe qui est aussi à la BAF tous les lundis de 16h à 20h. C'est là-bas aussi qu'on y fait les écoutes collectives de l'émission Dégenré que nous entendons en ce moment même. On peut aussi parler du 14 février où au Méliès à 21h, il y a le film En secret. C'est un film iranien de Mariam Keshravas. Je suis désolée si je prononce mal son prénom. Mais en tout cas, En secret, c'est un film sur une histoire d'amour entre deux jeunes femmes. Voilà.
Et donc, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission de Dégenré.
Qui aura pour thème le genre et la préhistoire.
Et on se quitte en musique avec une chanson de Tim Dresch, un groupe de queercore américain. Et la chanson s'appelle I'm Illegal.
Au revoir.
Au revoir.
Choose to stay.